Salut, salut à toutes et à tous et bienvenue. C'est l'émission L'eau à la bouche proposée par Radio Pays d'Hérault, diffusée sur Divergence FM, Radio Clapas et Radio Larzac. L'eau à la bouche en ce mois de juin 2012 vous propose d'écouter une conférence sur le loup enregistrée au début du mois à la Vacquerie sur le plateau du Larzac, une table ronde intitulée « Le retour du grand méchant loup ou la fin d'un mythe ». C'est une conférence de Louis Gérard Descrienne de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, venu chiffre à l'appui faire découvrir le loup et sa présence en France, sans oublier ce retour inéluctable dans les prochaines années, notamment dans notre région. Le retour du grand méchant loup ou la fin d'un mythe, une conférence enregistrée par Robert Martin de Radio Pays d'Hérault.
Bonjour, donc je me présente effectivement Louis Gérard Descrienne. Je travaille pour un établissement public qui s'appelle l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui dépend du ministère de l'Environnement. Et si j'interviens aujourd'hui sur ce loup, à la demande de l'association Kermit, que je remercie de cette initiative, c'est parce que l'établissement public Office national de la chasse et de la faune sauvage a été chargé par le ministère du suivi scientifique du retour du loup en France. Voilà, donc on a une équipe d'ingénieurs et qui travaille dessus, et vous verrez tout un réseau de correspondants qui apportent de l'information régulière. Alors ce que je vais vous demander, c'est d'oublier tous les a priori ou toutes les idées préconçues que vous avez pu vous faire sur le loup au travers des documentaires. Alors ça sera peut-être encore ce qu'il y aurait de meilleur, mais au travers des articles de journaux polémiques, etc. Parce que quand vous lisez un article de journaux, vous n'avez toujours qu'une facette. Et le journaliste, c'est rare qu'il soit totalement... totalement impartial, il a toujours envie de faire passer un message. Moi, j'ai envie de faire passer aucun message ce soir. Je vais vous donner des données brutes. Après, vous ferez votre propre opinion, qui sera peut-être c'est bien, c'est pas bien, c'est voilà. Mais vous serez totalement libre de penser ce que vous voulez au travers des informations que vous aurez. Il n'y a rien de caché. Il y a de l'argent en jeu, il y a des problèmes. On va essayer de tout lister. Alors, on va commencer par une description. Le loup, oui, vous en avez tous vu en photo. Certains d'entre vous ont peut-être eu la chance d'en voir en vrai. C'est un animal qui fait entre 1m40 et 1m50. La queue, c'est important, elle fait 35 à 45 cm. C'est un tiers de la longueur totale. C'est un critère important quand on voit un animal, parce qu'il y a des gens qui croient voir des loups. C'est un des critères qui permet de se rendre compte sur une photo ou autre que c'est peut-être un loup. Et puis, un poids qui va, pour la France en tout cas, sur les animaux morts recueillis, c'est jusqu'à 39 kg. Alors... sur le comportement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une espèce qui peut vivre n'importe où. Elle n'a pas de conditions nécessaires, il faut simplement une ressource alimentaire et une relative tranquillité. Il n'est pas nécessaire d'immenses espaces sans l'homme. Elle se débrouille très bien, elle s'arrange très bien avec la présence de l'homme. L'important, c'est qu'il y a à manger et qu'elle ne soit pas ni empoisonnée ni tuée. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un féodé à de grands espaces vierges. De ce type-là. On voit une photo, genre je décris pour les auditeurs, on voit la photo d'une zone de montagne où effectivement il n'y a pas une maison à l'horizon. Son rythme d'activité, que ça soit en déplacement ou en chasse, parce que les déplacements comptent beaucoup dans l'activité du loup, c'est souvent nocturne, mais en toute saison, vous pouvez le voir à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si vous êtes dans une région où il y a du loup, à quelques moments que ce soit de la journée, il y a eu des observations de fait n'importe quand. Donc c'est pas que la nuit que ça vit. Et puis les déplacements, alors c'est là, on va y revenir plusieurs fois, parce que ça permet d'expliquer quand même son expansion. C'est un animal qui, au trot soutenu, fait 8 km/h. En pointe, il court jusqu'à 70 km/h. Et en 24 heures, il fait entre 20 et 30 km en moyenne, mais on a des cas où il a fait 200 km en 24 heures. Alors quand les gens s'étonnent de voir un loup à 300-400 km du lieu où il y avait des meutes, en 3 jours c'est fait, 3-4 jours c'est fait. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire aussi, il coupe pas les forêts, il va prendre les pistes, enfin ce qui est commode, ce qu'on ferait nous aussi, un animal donc intelligent. Et puis, le territoire d'une meute, c'est environ 35 000 hectares, mais comme je vous l'ai dit et comme on va le voir plus loin, ça dépend beaucoup de la ressource alimentaire et de la physionomie du territoire. Alors, une meute, elle a pour vocation de produire des jeunes et des subadultes qui vont coloniser de nouvelles zones. C'est ce qui se passe en France depuis 1992. Alors, la dynamique d'une meute de loup, au départ, vous avez un couple qui fait une femelle et un mâle, ce qu'on appelle alpha, c'est les dominants, qui vont avoir des petits. Donc, dans ces petits, il y a des naissances avec de la mortalité, bien évidemment. Et puis, il y a les jeunes de l'année d'avant. Et puis au printemps et en automne, il y a une dispersion. Les jeunes de l'année d'avant vont être chassés de la meute. Entre 18 mois et 3 ans, ça dépend de la meute, ça dépend de la ressource alimentaire, ça dépend de beaucoup de choses. Et ils vont s'éloigner de quelques kilomètres à plusieurs centaines de kilomètres, comme on va le voir aussi. Alors, pour les effectifs de meute, on pourrait croire aussi que c'est quelque chose de stable. On a deux exemples ici de meutes qui ont été suivies pendant longtemps. On voit qu'il y a une meute, alors celle de Vesubiroya, qui est partie en 92-93, qui est montée jusqu'à 5 individus pendant 2 années de suite. Puis elle est montée jusqu'à 6 individus. C'est redescendu un petit peu, c'est resté à 6. Et puis ça a chuté brusquement en 2002-2003. Alors, problème de ressources alimentaires, hiver rigoureux, ça, j'ai pas l'explication là. Et puis on s'aperçoit que depuis 5 ans, elle est stable à 4 animaux. A l'inverse, en Vésubitinée, c'est une meute qui est montée jusqu'à 8 individus, qui a fortement chuté à 2 individus, donc il y a une année où il n'y avait plus que le mâle et la femelle, et puis qui est remontée doucement pour aujourd'hui compter 10 individus, une grosse meute donc. On peut imaginer qu'il y a de la ressource alimentaire conséquente. Alors c'est peut-être les moutons, on verra plus loin, entre autres. En résumé, une meute, c'est une portée par an et par meute, de 4 à 6 louveteaux. Statistiquement, un louveteau sur deux survit jusqu'au stade de subadulte. Et entre 60 et 80% des adultes survivent d'une année à l'autre. Ce sont des chiffres moyens donnés par toutes les études menées un peu partout dans le monde et qui se vérifient aussi en France, ce qui permet de conforter l'idée qu'il n'y a pas autant de mortalité anormale chez nous. On pourrait imaginer des empoisonnements, des choses comme ça. Alors, à l'origine, c'est un animal qui était très bien réparti. Donc on a une carte du monde là, et on s'aperçoit qu'il occupait quasiment tout l'hémisphère nord, Amérique, Europe et puis Asie, jusque les péninsules arabiques et indiennes. Par contre, pas présent en Amérique du Sud, pas présent en Afrique et pas présent en Australie ni en Indonésie, etc. Et puis, présent dans des habitats extrêmement variés, de tout, de la forêt, de la plaine, de la toundra, de la steppe, dans le désert même. Donc un animal, comme on disait tout à l'heure, il se plaît partout. Alors, son retour en Europe, il coïncide avec une évolution radicale du contexte. Au 19e siècle, au début du 20e, il y a des primes et des campagnes de destruction. Et on arrive dans la seconde moitié du 20e siècle, on est sur une protection légale. Il y avait un usage massif de l'empoisonnement, il est totalement interdit aujourd'hui. Il y avait une population essentiellement rurale. Aujourd'hui, la population est essentiellement citadine, avec un fort exode rural et de la déprise agricole partout. Il y avait de la déforestation. Aujourd'hui, le couvert forestier français, ça avait peut-être 1000 ans que la France n'était pas couverte de forêts comme aujourd'hui. Et puis, on avait, de part d'ailleurs, les autres, la population rurale, la déforestation, une raréfaction des ongulés sauvages. Aujourd'hui, on a pléthore d'ongulés sauvages. Les populations... en tout cas son accroissement soit stable à très haut niveau, soit explose. Donc que des données favorables au retour de l'espèce. Si on prend les populations européennes à la date d'aujourd'hui, alors elles ont été classées en 10 populations différentes, même si on s'aperçoit par exemple qu'en nord, au nord entre la Carélie et la Baltique, il n'y a pas grand chose qui sépare, mais enfin bon, on a supposé. Vous voyez qu'il y a une population en Suède, donc en Russie, Baltique et Carélie, deux populations. On trouve une toute petite population en Allemagne et à l'ouest de la Pologne. Dans les Carpates, si le 6, c'est les Balkans, une population assez importante. L'Italie, la France, l'Espagne, deux petites populations en Espagne, une population à l'ouest, au nord-ouest de la péninsule ibérique, et puis une population dans la Sierra Morena au sud de l'Espagne. Donc, sur cette carte, il y a les permanents, occasionnels et simples observations, mais on voit bien quand même que c'est un animal qui est... alors qu'il avait un peu disparu de l'Ouest, comme on le voit, et il est en train de regagner... il a encore des vastes territoires, notamment en Allemagne, il a de quoi se réinstaller, mais ça se fera peu à peu. On voit qu'en France, quand vous voyez la population française, il ne faut pas oublier qu'entre 92, en 92, ça aurait été tout jaune. Il n'y avait pas un loup en France. Alors, l'historique du retour en France, eh bien voilà, le dernier loup dans les Alpes, en France, c'est 1912. Depuis, plus personne. Et il en restait donc en Italie, dans la botte italienne. Globalement, en 70, il restait cette petite population que vous voyez, et elle était encore plus largement centrée dans ces zones-là. En 76, il y avait deux petits noyaux qui étaient connus. 1992, ça a reconquis une partie de la péninsule italienne. Et puis, premier cas, le Mercantour, première connaissance dans le parc du Mercantour, premier signe de loup, si je me souviens bien, c'est un cadavre. Alors, comment cet animal, en quelques années, arrive à reconquérir des territoires aussi grands? Ben, voyez, là, sur une de tête, il y a 22 loups marqués. Voyez les distances parcourues entre le lieu de naissance et le lieu de reproduction, en kilomètres. Alors, si on regarde sur ce graphique, les quatre premiers, ils sont arrêtés entre 0 et 100 km, hein, après leur, quand ils ont quitté la meute. Après, les 11 autres, ils ont fait entre 100 et 200 km avant de s'installer. Après ça, il y en a encore 3 qui font entre 200 et 300 km. Donc, ça vous fait, sur les trois colonnes, ça vous fait 15 loups qui se sont installés entre 0 et 300 km. Et puis après, il y en a 4 qui sont allés jusqu'à 1000 km quand même. Donc, entre 300 et 1000 km. Donc, c'est quand même assez suffisamment important. Vous allez voir. Regardez cette photo. Vous voyez, il y a un loup qui a été marqué ici, à la frontière entre la Pologne et l'Allemagne, en dessous de Berlin. Et il a été repris près de Vilnius. Mais regardez ce que ça donne. Hein, donc, il y a 800 km si on fait une ligne droite en 4 mois. Hein. Il a fait 1550 km en 4 mois, en traversant deux autoroutes au passage. Et regardez, si je fais le cercle, et ben, s'il était parti dans l'autre sens, il arrivait à Paris. Tout simplement. Donc, ça donne une idée de la dispersion qu'il peut y avoir. Et ceci en 4 mois. Hein. Donc, faut pas s'étonner dès lors. Vous verrez d'autres endroits après. On a des loups qui sont arrivés en France, aux bordures de l'Espagne, en très peu de temps. Au point même que certains disaient ils ont été lâchés, ce qu'a démenti la génétique. Autre exemple, alors c'est en Italie que ça se passe, vous voyez un loup qui avait été accidenté sur la route, on lui a mis un collier GPS. Alors au mois de mars il est ici, au mois d'avril il est là, au mois de mai il est ici, alors vous voyez la distance, il y a 50 km. Hein. Et puis il va faire un peu de trajet, au mois d'août il est ici. Donc il remonte, il a refait encore une centaine de kilomètres. Il remonte encore, il arrive au mois de juillet, il est là. Au mois d'août, c'est en vert, il est ici, dans cette zone-là. Au mois de septembre, il arrive en bas, là-bas. Et au mois de novembre, il est tout en bas. Donc il a fait, si vous regardez, il y a 200 kilomètres en ligne droite, mais il a fait 300 ou 400 kilomètres, quoi. Hein. Si on tire des lignes droites, parce qu'en termes de trajet, il a fait énormément plus. Et ça, en 8 mois. Donc ça donne toujours, pareil, les colliers GPS et ces suivis-là ont donné une idée de la dispersion qu'on n'imaginait pas. Alors, pour bien situer le loup en France, il fallait travailler sur 4 points. La colonisation spatiale, le suivi de la reproduction, le suivi en hiver, et puis les effectifs de population. Donc c'est ce à quoi s'est attaché le réseau de correspondants qui ont été formés. Donc la carte est plus tout à fait à jour parce que dans le Massif central, il y a des gens formés encore. Il y a des sessions tous les ans de gens nouveaux. On doit être à 1300 correspondants formés. Donc 80% de professionnels qui sont des forestiers, des agents de l'office, mais aussi des particuliers. Et puis ça concernait 12 départements pour le loup et le lynx, 17 pour le lynx, c'est un peu plus maintenant, et 21 départements qui sont, on dit sentinelles, c'est-à-dire qu'on présume qu'il va y avoir que le loup pourrait y arriver, où il y a déjà eu des informations qui n'ont pas été avérées et où on maintient une veille très active, parce que notre rôle, c'est, dès qu'il y a une présence de loup, c'est de prévenir le préfet, parce que derrière il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, et de prévenir le préfet que le loup est arrivé dans le département et qu'il va falloir prendre des mesures à la fois pour expliquer, pour protéger, pour protéger les troupeaux éventuellement, etc. Donc, premier objectif, surveillance de l'aire de répartition et donner une tendance démographique. Et puis, un deuxième objectif, c'est réaliser les constats de dommages aux troupeaux. On voit, bien sûr, là, quand vous le voyez là sur la carte, le gros morceau, c'est les Alpes. Hein. C'est là où, actuellement, vous verrez les cartes après, où se situe l'essentiel de la population française. Alors, comment est-ce qu'on travaille sur ces indices de présence? Il y a un premier indice, c'est l'observation visuelle. C'est pas très fréquent, mais ça arrive, il y a des photos. Donc, quand c'est à partir d'une photo, elle est transmise au réseau, pas au réseau, au responsable du réseau, qui analyse la photo. Et alors, si la photo est très bonne et prise correctement, on peut dire avec certitude que c'est un loup. Mais très souvent, ça reste possible. Et dans ces cas-là, on reste, tant qu'il n'y a pas une preuve formelle, on ne dit pas que le loup est présent. Et souvent, enfin, quand il y a une photo, on essaie de retourner sur le terrain pour trouver des fesses, donc des crottes, du poil, quelque chose, des cadavres, on fait des recherches. Donc les cadavres, quand on les trouve, c'est déjà mieux, parce que souvent il y a des fesses à proximité. L'objectif, c'est d'en récupérer. Hein. Les traces, J'ai malheureusement pas récupéré cette photo, mais vous savez que le loup marche dans ses propres traces quand ils sont à deux ou trois. Donc vous avez l'impression qu'il n'y en a qu'un. Quand on dit à la queue leu-leu, c'est vraiment avéré. Hein. J'avais des photos prises en Lozère il y a 3 ans où ils suivent un loup et d'un seul coup on voit le loup qui se sépare en deux. C'est assez extraordinaire parce qu'on a vraiment l'impression que c'est le même animal. Donc derrière, la génétique qui a permis d'éclaircir beaucoup de champs d'ombre. Hein. Donc première chose, on envoie l'analyse génétique. C'est un loup? Non, donc c'est un chien, on laisse tomber. C'est un loup? Oui. Donc est-ce que c'est bien la lignée génétique italo-alpine qui est la lignée qui de tous les loups actuellement en France en liberté? Si c'est non, c'est pas arrivé jusqu'à présent, mais on peut se poser des questions dans ces cas-là. Est-ce que c'est échappé d'un élevage? Est-ce que c'est... Quelles sont les autres lignées possibles? Ça pourrait être l'Espagne. Mais après, si c'est autre chose, hein, si c'est une lignée de Russie ou quelque chose, on peut penser que c'est un animal amené illégalement, échappé d'un élevage, etc. C'est pas arrivé. Hein. Si c'est oui, si c'est un mâle, ça va être le mâle M1, M2, M3. Ils sont tous numérotés, ils ont tous un code génétique. Donc ils sont identifiés, on peut trouver, on verra, il y a un animal qui a été identifié en 2002, qui est réidentifié régulièrement au fur et à mesure de ses déplacements. À partir de crottes, souvent, c'est suffisant. Et les femelles, c'est pareil, elles sont toutes numérotées, ce qui fait qu'aujourd'hui, de tête, on doit avoir plus de 50 loups qui sont parfaitement identifiés en France, à qui on pourrait donner des prénoms, comme font les anglo-saxons, vous savez, dans leurs reportages. Nous, ce n'est pas la tradition. En France, on donne des numéros. Voyez un exemple de l'apport de la génétique. On est dans les Alpes, hein, en Tinée. On voit ces loups qui sont identifiés. Vous voyez, chaque carré là. Ce loup-là, par exemple, est parti en Aubrac en 2006. Il a été retrouvé en Aubrac en 2006. Celui-là est parti vers Valdaigne en 2005, vers le nord, le bleu là. Et ça a montré aussi d'autres choses, c'est que les loups changeaient de meute. Chose qu'on ne connaissait pas, un mâle va faire une meute et puis il est chassé, on ne sait pas pour quelle raison, il va partir, il va peut-être prendre une autre meute. Alors il était peut-être dominant dans une meute, il se fait casser la figure par un plus fort, il arrive dans une autre meute où finalement il se monte le plus fort et il reprend la meute. Voilà. Donc on a des mouvements, là c'est pas très important, 14 km, mais enfin ça finit par faire des bandes quand même, à force. Hein. Mais voilà, ça a permis d'éclaircir, vous voyez, tous ces loups sont identifiés, sont parfaitement connus les uns les autres. Et chaque fois qu'on trouve des crottes, du poil ou quelque chose, on vérifie et on sait l'endroit où il était tel jour, en tout cas à telle période. Alors, ce que ça a apporté de façon, là c'était vraiment très intéressant, on a aperçu qu'il y a un loup, un loup qui a été identifié par deux fois en Espagne. Eh bien, ce loup, il n'est pas espagnol. Il avait été identifié en Tinée en 97. Donc, il a fait du chemin, lui. Il a fait tout l'arc. Un autre, c'est le Carlite, là, en Pyrénées-Orientales, qui venait du Queyras en 2002, identifié dans le Queyras en 2002, et un autre identifié en Haute-Tinée en 2006. Et donc, ça, c'est l'argument imparable, c'est un argument scientifique, c'est l'argument imparable sur lequel c'est pas des lâchés comme il aurait pu être imaginé, c'est bien des loups qui proviennent, qui sont arrivés d'Italie et qui ont recolonisé totalement naturellement le territoire national. Et si par hasard il y avait des lâchés, on arriverait également à identifier. On pourrait le prouver. Voilà. Un autre exemple, un vieux loup en vadrouille. Vous voyez ce loup-là, donc c'est une carte, alors je le dis pour les auditeurs, hein. C'est une carte du côté au-dessous, du sud de Lyon, dans les Alpes, autour de Grenoble. Donc ce mâle devait être le mâle alpha, donc le mâle dominant de cette meute-là. Et il était présent depuis 2002. Et puis curieusement, présent depuis le 2002. En 2009, il fait 2009 début 2010, il fait un ou deux allers-retours vers une zone de présence temporaire, sans qu'on puisse expliquer pourquoi. Ça fait, il y a pas 50 km, il fait 40 km quoi. Il quitte sa meute, il fait une quarantaine de kilomètres, il essaie d'y revenir. Bon, et puis au mois de mars 2010, il arrive dans une nouvelle meute, la meute d'Urbon-Jocou. Elles sont identifiées, les meutes, avec des noms en fonction des lieux où elles sont. Il arrive dans cette meute là. Donc à distance de son point où il s'était déjà éloigné il y a encore 40 km. Et on le retrouve, donc ça on est au mois de mars, on le retrouve au mois d'avril 2010, alors là par contre il a fait 200 km, hein, dans une meute au nord, en dessous du lac de Genève. On le retrouve dans une meute, donc visiblement il a été chassé, il n'a pas réussi à s'imposer, et donc il est monté là-haut. Et puis on est au mois de mars, on le retrouve quelques mois plus tard dans une zone de présence temporaire, donc tout seul apparemment, dans le Vercors, et on l'identifie par deux fois. Vous voyez, c'est le trajet qu'il a pu parcourir, donc c'est un loup qui commence à avoir un peu d'âge, et il est fort probable qu'effectivement il n'arrive plus à dominer sa meute et qu'il s'est fait évincer. Mais ça donne encore une fois de plus une idée des déplacements qu'un loup peut faire. Voilà. Et l'hypothèse de l'évolution territoriale, c'est en lien avec son statut social. Il est plus dominant, donc il est chassé, il va s'éloigner, donc on a encore des traces de lui il n'y a pas longtemps, mais en 2012, je ne sais pas. pas où est-ce qu'il est, s'il est encore identifié quelque part. Alors, les analyses génétiques. En fait, c'est celles qui nous servent vraiment à décrire la démographie du loup. Donc, on collecte les échantillons. Souvent, je vous dis des crottes, des poils. Hein, c'est les deux choses qu'on... Ou alors, si le loup est mort, ben, ça permet d'identifier, de savoir si c'est un loup qu'on connaissait déjà ou d'où il venait. On va pouvoir identifier même éventuellement ses parents. On fait des analyses génétiques. Et en estimant les paramètres... alors, ces paramètres, ça parlera à certains, de capture, marquage, recapture. C'est des systèmes statistiques qui permettent de dire si je capture un animal une fois et que je le recapture 10 ans plus tard après avoir fait X capture, ben je peux dire que en fait j'avais une chance sur temps de le capturer. Que, bon. Et donc ça donne une idée de la population avec ces systèmes-là en fonction des animaux qu'on a identifiés et qu'on retrouve régulièrement. Donc on voit quand même que cette population elle grimpe. Ça c'est une population a priori réel. Hein. Donc là, on était en été 2007, on était à 100, 120, à peu presque 120 individus. Alors, pas tous identifiés, mais les modèles mathématiques donnaient 120 individus. Et voilà comment ça fonctionne, c'est un autre graphique. Hein. Donc là, en dessous, on a tout ce qui est observation. Donc dans les observations, quand par exemple on connaît une meute, il y a les correspondants qui y vont régulièrement, qui vont prendre des indices, etc. Donc ils vont avoir des indices qui vont donner une fois 4 individus dans la meute, une autre fois 6 individus, une autre fois 3, etc. avec des écarts. Donc il y a un effectif maximum et minimum à chaque fois. Donc vous voyez en 2005, un effectif maximum de loups, minimum 2005-2006. On voit que plus l'effectif augmente, le nombre de meutes augmente, ben plus l'écart il va grandir, parce que forcément la certitude, elle devient, c'est plus difficile d'identifier 25 meutes que quand il n'y en a qu'une qu'on peut bien suivre. Quoi, hein. Et à partir de ça, avec des tests mathématiques, on peut en tirer, la différence entre ça avec des tests mathématiques, on peut en tirer la population réelle. C'est statistiquement, quelle chance j'ai de louper un animal vivant et quelle chance j'ai de louper un animal mort. Alors, me demandez pas comment ça fonctionne exactement. S'il y a des mathématiciens ici, ils l'expliqueront bien mieux que moi. Mais ça nous donne aujourd'hui, 2011, ça donnait 200 individus. Et à la date d'aujourd'hui, le chiffre avancé pour 2012, c'est 230 individus. La population française est à 230 individus à peu près. Donc, elle continue de grimper. On va voir que le taux d'accroissement est tout à fait normal par rapport à ce qui est connu dans la littérature. On le voit également avec les zones de présence sûre, avérée du loup dans les communes. Donc, en 2011... on a 220 communes, 210 ou 215 communes avec le loup. On est sûr que le loup est présent dans cette commune. Et puis, on en a encore 250 où c'est sporadique. Une fois oui, une fois non, voilà. Ce qui donne un total de 450 communes. Mais vous voyez que depuis 1994, enfin, bon, les premiers comptages, on voit que cette courbe, elle monte sans arrêt. Il n'y a pas de frein. Pour l'instant, on n'est pas arrivé au pic, au maximum de la population de loups, parce qu'il y a un moment en France où on aura une population de loups qui va se stabiliser par rapport aux proies, par rapport aux interactions avec l'être humain, etc. Mais on n'en est pas encore là. Un exemple de ce qui du travail réalisé grâce à la génétique, vous voyez, on sait qu'on a en France 27 groupes de loups sédentarisés. Alors un groupe, ça peut être un animal, hein, mais c'est un animal qui est sédentarisé, c'est-à-dire qu'on a identifié plusieurs années de suite au même endroit, dans la même zone. Donc on a principalement les Alpes, plus dans le Carlite, dans les Pyrénées-Orientales, et il manque un nouveau groupe dont vous avez tous entendu parler dans les Vosges, puisqu'il y a deux loups dans le sud des Vosges qui actuellement sont clairement identifiés. Alors est-ce qu'ils resteront ? On ne peut pas encore dire qu'ils sont installés définitivement, ils y étaient il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'ils vont redescendre en sens inverse ? Est-ce qu'ils vont partir en Allemagne ? Nul ne le sait à la date d'aujourd'hui. Donc toutes ces meutes sont parfaitement connues et parfaitement suivies.
Vous écoutez l'émission L'eau à la bouche, c'est une conférence de Louis Gérard Descrienne de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, enregistrée à la Vacquerie sur le plateau du Larzac début juin à l'occasion d'une manifestation intitulée Sale bête.
Alors, les problèmes de gestion du loup, bah ça vient, s'il était végétarien, on aurait sûrement des problèmes, mais il n'est pas végétarien. Donc, ce qu'il nous faut mesurer pour le travail qu'on voulait faire, pour pouvoir dire ce que ça mange, ce que ça fait comme dégâts, comme prélèvements sur les populations d'angulés sauvages. Sur les populations domestiques, on le connaît malheureusement assez bien, mais en tout cas sur les populations d'animaux sauvages et principalement les angulés. Donc il y a des choses à noter, c'est le changement de comportement des proies. Donc par exemple, du jour au lendemain, les animaux, les cerfs, les chevreuils, les mouflons, changent de comportement et changent de milieu. Ils se regroupent sur des milieux ouverts. Dans les milieux fermés, ils s'éclatent. Il n'y a plus des grands groupes, c'est des individus séparés. Et puis, il y a une vigilance, les animaux sont inquiets, etc. Hein, Alors, le taux de survie, ben, on va le calculer à partir de ces marquages que vous voyez là. Tous ces animaux, donc un chamois, un chevreuil, un cerf, un mouflon. Donc là, on va voir après, il y en a eu des centaines et des centaines de capturés, de marqués, pour pouvoir voir le taux de survie de ces animaux-là. On les voit vivants parce que ça, on peut les identifier à distance avec ces colliers-là. Certains ont des colliers GPS. Souvent, c'est des marques, comme sur ce mouflon-là. Une marque qu'on peut lire avec un télescope ou avec des jumelles à distance. Donc, on peut dire, le jour où on a vu, cet animal était toujours vivant tel jour à tel endroit. Et puis, quand on trouve son cadavre, si on est sûr que c'est le loup, bah, il a été mangé par un loup à telle période ou à tel moment. Ce qui permet de calculer un taux de prédation du loup, de pouvoir dire comment est-ce qu'il sélectionne ses proies. Le sexe, l'âge, la condition physique. Il faut se méfier de ça. Moi, quand j'ai débuté, on m'expliquait qu'un prédateur ne fait jamais disparaître les populations de proies, qu'il s'en prend toujours aux plus faibles, etc. Alors tout ça, je ne vais pas dire que c'est du pipeau, mais ça, c'est dans les contes de fées. Hein. Dans la réalité, un prédateur, il prend au plus facile. Et si c'est, et on l'a vu avec le lynx au début, parce que quand le lynx a été réintroduit dans les Vosges, on avait expliqué aux chasseurs du coin qu'il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent. Ça commence à chuter. Hein, ça chute, le graphique montre une chute. En 2004, on est à 800, un peu plus. En 2005, on est à 600. En 2006, on tombe à 400 et quelques. Et alors, depuis 2006, ben, on voit que c'est stable. Donc ça, c'est un graphique typique qui semble dire que la population proie est en équilibre maintenant avec son milieu et avec la population de loups. Elle ne continue pas de chuter, donc ça veut dire qu'elle se maintient. Ça veut dire aussi très certainement qu'elle s'est installée dans des zones qui étaient plus favorables que d'autres. On a eu l'exemple, notamment le chevreuil, c'est particulier, c'est un animal qui a progressé partout en France, mais qui n'est pas adapté à tout. En l'absence de prédateurs, il peut s'installer n'importe où. Mais quand il monte en montagne, ce qu'il avait fait ces 20 dernières années, bah, quand il y a de la neige, il n'est pas du tout adapté. Il a des petites pattes qui s'enfoncent dans la neige. S'il y a un mètre de neige, il a de la neige au ventre en permanence. Par contre, il se met sous les sapins, il va grignoter trois ronces et tout, il va survivre, même avec beaucoup de neige, il va survivre. Mais quand il y a un loup qui arrive, le loup en quatre enjambées, il l'a attrapé, quoi. Hein. Donc les populations de chevreuils qui étaient en montagne, en haute montagne, ont chuté, mais très très rapidement. Mais c'est assez normal, c'est pas le milieu qui était le sien à l'origine. Les prédateurs, ils sont là pour... Donc que ce soit le loup ou le lynx. Une chose un peu curieuse, c'est le poids des fidés des femelles adultes. On aurait pu imaginer, si on suivait d'ailleurs la littérature, dire bah, puisqu'il y a moins de chevreuils, ils ont plus à manger, etc. Et donc on devrait avoir des animaux en meilleur état. C'est ce qui se passe en milieu fermé. On a fait des expériences dans des grands parcs de plusieurs milliers d'hectares où on a laissé la population de chevreuils monter, puis après on l'a fait baisser. Et quand on l'a fait monter, bah, ils se reproduisent moins, donc il y a moins de jeunes. Le poids moyen baisse, les animaux sont plus petits. Et puis dès qu'on refait baisser la population, les animaux à nouveau reprennent du poids, reprennent de la taille, les portées font trois jeunes au lieu de 2, 1, etc. Donc là, ça a baissé. Alors la raison, est-ce que c'est parce que justement les femelles adultes sont plus faciles à capturer parce qu'elles gourrent moins vite? J'en sais rien. J'ai pas d'explication là-dessus, mais c'est un constat. Et puis il est flagrant. Hein. Donc quand on voit le nombre, c'est sur 99 animaux. Donc là, il y a pas de problème. Hein. On passe de pratiquement de 16,80 kg à 16 kg. Donc on perd. Et puis par contre, c'est un indice que les forestiers apprécient, c'est qu'on baisse la population de chevreuils et l'indice d'abrutissement tombe à un niveau très très raisonnable, alors qu'il était assez fort finalement au début en 2001. On voit qu'il a baissé régulièrement pour arriver à quelque chose de très raisonnable maintenant. Donc là, c'est bien signe que la population a baissé. Alors, il a fallu aussi capturer des loups. Parce que l'idée, c'était quand même, pour qu'on en sache un peu plus, c'était de leur mettre un collier GPS. Aujourd'hui, on a cet outil extraordinaire. Donc il y a eu, il y en a, alors... Deux têtes, il n'y en a qu'un qui a réussi à être capturé avec ce type de piège. C'est quand même un animal extrêmement méfiant. Bon, enfin, il y en a un qui a été capturé quand même. Et l'autre, il a été capturé. Alors ça a marché par contre. Hein, par hélicoptère, on a fait venir une équipe suédoise qui est habituée à faire ce travail-là. Ça nous a coûté un bras, mais enfin bon. Mais par contre, ils ont été efficaces. Hein. Premier, ils ont fléché l'animal. Il y avait deux loups, ils les ont fléchés. La chance qu'ils ont eue, c'est que la louve qui était fléchée est arrivée sur un plateau. Ce qui fait qu'ils ont pu, comme on le voit sur la photo, ils ont pu se poser dans la neige. La récupérer, lui poser son collier. La malchance qu'elle a eue, c'est qu'elle est morte quelques semaines après, et morte de mort naturelle, elle est morte dans un éboulement. Comme quoi aussi on peut... Les gens pensent qu'un loup adulte, ça s'en tire, etc. Non, il est aussi victime d'avalanche, il est aussi victime d'accidents. Voilà, donc il y en a eu un autre de marqué depuis. Hein. Et donc ça a donné par contre des informations très intéressantes sur le comportement, puisque là, tous les jours, on pouvait savoir où il était, où est-ce qu'il s'arrêtait. Et donc, quand il s'arrêtait un certain temps, on imaginait, à juste titre, qu'il était en train de consommer une proie, et ça a permis d'aller, alors les agents ont marché à ce moment-là, hein, parce qu'on n'y va pas en hélicoptère du coup, et donc aller sur les proies et voir qu'est-ce qu'ils avaient consommé. Donc à l'époque, c'était assez spectaculaire, hein, c'était tous les jours, il y avait un animal. Hein. Mais c'était au printemps, la louve était pleine, et on peut aussi penser qu'elle avait besoin de protéines. Alors aussi, bah, pour poursuivre les marquages d'animaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, bah, y a des méthodes de capture. Hein. Donc vous voyez, c'est une espèce de filet tombant, c'est comme un grand parasol, mais c'est pas un parasol, c'est un filet. On met des pierres à sel dessous et quand les chamois viennent dessous, ils s'habituent peu à peu à venir, à lécher les pierres. Et puis on fait tomber, on capture le chamois et ça permet de lui mettre son collier, hein, et de le relâcher ensuite. Pour les chevreuils, c'est un peu plus compliqué, hein, c'est du panotage, c'est des grands filets qui font plusieurs centaines de mètres qu'on met le long des chemins, surtout en montagne, c'est compliqué. Après, on fait une battue, on les pousse, ils viennent se mettre dans le filet, s'attraper, on les attrape, on leur met un collier, on les relâche. Il y a d'autres méthodes. Donc on met des cages-pièges, des cages en bois comme ça, et avec à manger dedans, donc en hiver ça peut marcher. C'est pas très très efficace, mais ça marche. On en prend aussi quelques-uns comme ça. Donc tout ça avec pour but de marquer des animaux, pour les suivre, pour assurer un suivi scientifique, qui ne sert pas qu'au loup d'ailleurs. Hein. Ça détermine des taux de survie, on mesure quand on capture l'animal, on lui fait une prise de sang, on mesure la longueur de ses pattes, la longueur de ses cornes, ça fait qu'on... Ça permet d'avoir des données morphologiques précises sur l'état sanitaire de la population et tout. Donc tout ça est intéressant. L'état sanitaire, c'est important aussi parce que chaque fois qu'il y a une épidémie, sur les cheptels domestiques, les gens, quand je dis les gens, on va dire les agriculteurs non plus, mais le ministère de l'Agriculture a tendance à se tourner vers le ministère de l'Environnement en disant « Oui, mais ça, c'est les animaux sauvages qui transmettent. Souvenez-vous de la grippe aviaire, hein, c'était les oiseaux sauvages, soi-disant, pour s'apercevoir à la fin que pas du tout. » Mais en l'occurrence, là, le fait de suivre ces populations, on le fait pas loin d'ici sur la population de mouflons, on est sûr qu'il n'y a pas de peste ou de choses comme ça que pourrait transmettre le cheptel sauvage au cheptel domestique. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Hein. Si un jour on a des signes de peste ovine, par exemple, sur les mouflons, bah là, on avertira immédiatement les autorités sanitaires pour qu'elles mettent en place des campagnes de vaccination sur les troupeaux domestiques, etc. Ça peut arriver dans ce sens-là. Pour le cerf, c'est encore plus compliqué. Hein. C'est des grands enclos, comme vous voyez sur cette photo, avec des bâches à plus de 2 mètres de haut. Et quand ils sont rentrés dedans, bah, y a la porte qui ferme et après, il faut l'attraper à l'intérieur. Voir le flécher. Bon, c'est toujours rock'n'roll un peu. Hein. Alors, ben, après, on a un deuxième moyen pour suivre après avec l'arrivée du loup, ce que ça donne. Ben, sur les tableaux de chasse. Donc, on voit, par exemple, dans les Alpes, sur un tableau... alors, en plus, la population de chevreuil était croissante. Hein, elle est montée. On voit que malgré l'arrivée du loup en 92... Bon, il n'y en avait pas beaucoup, hein, 92, c'était le début hein, dans le sud des Alpes. Donc le chevreuil a continué sa croissance, donc le chevreuil, le tableau de chasse, hein, il est monté quasiment à 35 000 chevreuils, et depuis 2005, 2004, 2005, il est stable. Il est stable, ce qui veut dire qu'il y a visiblement un équilibre qui s'est créé entre la population de prédateurs, loups, la population de prédateurs, hommes, et puis l'espèce. Donc ça, c'est d'autant plus facile à faire que le chevreuil est soumis au plan de chasse, qu'avec des comptages et tout, on arrive à... Et que c'est une espèce qui se reproduit bien, et on arrive à rééquilibrer. Si elle baissait trop, il suffit de chasser un peu moins. Voilà, Donc c'est une espèce qui est relativement facile à suivre. Et on voit d'ailleurs que ça suit un peu la même chose au niveau national sans le loup, ce qui pourrait laisser penser que le loup n'a pas une influence énorme sur le chevreuil, mis à part quand même sur les zones de haute montagne. Mais on voit qu'effectivement, dans les mêmes dates, à partir de 2005, la population nationale... est à peu près, le prélèvement national est aux alentours de 500 000 chevreuils et semble se stabiliser. Donc ça serait à amener à ceux qui disent « Oui, les loups nous ont mangé tous les chevreuils. » Non, visiblement non. Ils en mangent, ça c'est sûr, il ne faut pas raconter d'histoire. Ils en mangent, mais finalement, le tout semble être assez équilibré. Sur le chamois, alors, c'est un peu plus compliqué sur le chamois. Vous voyez, le quota légal est en jaune. Hein, c'est un graphique. On voit qu'il monte en 89, il y a 5000 chamois à peu près. Ça monte jusqu'à, dans les années 2000, en 2007, 2008 et 2009, on est aux alentours de 14 000 chamois. Mais on voit que le prélèvement a commencé à se stabiliser à un peu moins de 12 000 à partir de 2004. Il est resté stable, on va dire, d'une année à l'autre. Et il commence à descendre à partir de 2009. On peut tempérer le résultat parce qu'on pourrait dire c'est le loup qui fait que. Non, on peut aussi le tempérer. Le chamois est sujet à des épidémies. Donc de carajoto-conjonctivite, ça m'a dit qu'il aveugle. Et donc, on a le cas dans les Pyrénées-Orientales où ils ont été malades et c'est pas ni la chasse ni le loup qui l'a fait diminuer. Hein, c'est la maladie là. Alors pour le mouflon, c'est encore plus intéressant. Parce que le mouflon, c'est un animal, c'est un mouton sauvage. Hein. D'ailleurs, ça, on l'appelle mouflon méditerranéen parce que c'est plus du mouflon de Corse. Il a du sang de mouton probablement et peut-être d'autres mouflons. On voit que les tableaux nationaux, je vous disais tout à l'heure que tous les ongulés en France avaient tendance à progresser. On le voit bien. Hein. On part d'un peu plus de 1000 en 89 pour arriver à une attribution au plan de chasse à plus de 4000 en 2009. Mais on voit par ailleurs que les prélèvements ne suivent pas. C'est-à-dire jusqu'en 2002, les prélèvements suivent à peu près à la courbe. Hein, et puis ça chute en 2004, 2005, 2006. Alors, ça peut être lié aussi à des hivers rigoureux, parce que le mouflon, il y a de la casse quand il y a de l'hiver rigoureux. Au moment des naissances, au printemps, on le connaît ici, nous, avec la réserve nationale du Caroux, où il y a une belle population. Quand on a des coups de neige au mois de mai, on retrouve des agneaux morts. Hein, donc, et il remonte à partir de 2007, 2008, 2009, alors que normalement, il est dans des zones, à part ici, où il y a du loup. Et le comportement qui a été identifié, c'est que c'est un animal qui peut vivre aussi bien en forêt, dans un lieu où il n'y a pas de rochers, etc. Sauf que quand le loup est arrivé, il a bien tapé dedans. Et puis les mouflons qui sont naturellement réfugiés dans les zones rocailleuses et escarpées, où le loup ne le suit pas. Et donc il peut reprendre sa progression, mais par contre il se cantonne, il évite d'aller dans les zones où il se fera manger. Donc c'est un comportement, il revient dans des zones où normalement qu'il n'aurait jamais dû quitter, tout simplement. Mais toujours en tempérant là aussi, parce qu'en montagne, il y a quand même de la casse qui peut être due à des hivers rigoureux et tout. Donc, ce n'est pas forcément tout lié au loup ou à l'homme. Hein. Il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer. Mais si on ajoute ces comptages, ces marquages, capture, recapture, etc., et les plans de chasse, ça fait autant d'indicateurs qui peuvent permettre de suivre les populations et de voir à quel niveau les populations proies sont en équilibre avec la population de prédateurs. Vous voyez, même avec un monitoring fin, donc un suivi fin, comme on a vu, toutes ces choses-là, on se heurte quand même à une complexité biologique. Le climat peut influencer, les maladies, la chasse, bien sûr, l'habitat, la nourriture, est-ce qu'il y a assez de nourriture, est-ce que la sécheresse peut conditionner fortement le succès de la reproduction, et puis en plus la prédation. Donc tout ça, c'est quand même pas facile d'avoir des données précises, et c'est l'accumulation d'indices qui fait que on peut affirmer certaines choses, ce n'est pas un seul indice. Alors, le régime alimentaire moyen, donc ça a été fait à partir des restes de proie qui dans les fesses des loups, donc dans les crottes de loups. Donc on s'aperçoit sur ce graphique, on va prendre le premier en... Alors autre, ça va être des rongeurs, des rats, des choses comme ça, hein, ok. Après, du bouquetin, du cerf, du chamois, du chevreuil, du mouflon... Du cerf, autre sauvage, il peut y avoir des lièvres, des lapins, etc. Et puis là, on a une petite part, pas très élevée, en hiver et au printemps, de domestiques. Pourquoi pas très élevée? C'est qu'en hiver et au printemps, il n'y a pas encore de moutons dehors la plupart du temps. Donc, c'est pas illogique. Bon, il y en a quelques-uns, mais c'est pas illogique. On voit que ça change après quand même. Hein. Donc, on constate quand même qu'ils consomment surtout des ongulés sauvages. Et c'est selon le rapport abondance-vulnérabilité. Hein. On parlait du chevreuil dans la neige. Là, s'il y a beaucoup de neige avec des chevreuils, c'est sûr qu'il va s'amuser. Là. Il ne va pas mourir de faim. Alors, vous voyez, le régime alimentaire, il est en général constitué de 80% d'espèces sauvages. Donc ça, c'est les régimes alimentaires de meute où on a récupéré des centaines et des centaines de crottes. Donc l'analyse, c'est vraiment du sûr. Hein. Donc on voit dans la meute du Vercors, on voit que les ongulés sauvages représentent pratiquement, on va dire, 80% de la... 80% de la... C'est même... J'essaie de regarder s'il y a le chiffre ou pas. Non. Dans le Keras, c'est peut-être un peu plus, c'est un peu moins, c'est 70%. En meute de Haute-Tinée, c'est pareil, c'est environ 70%. Et puis les domestiques représentent un petit bout à chaque fois, mais c'est pas énorme. Mais, il y a un mais. Dans la meute de Vésubie, on s'aperçoit que le cheptel domestique, c'est quasiment la moitié de la consommation. Alors il y a aussi une explication à ça, c'est qu'au sud des Alpes, c'est beaucoup moins enneigé. Et donc les moutons sont beaucoup plus longtemps dehors, beaucoup plus tôt et beaucoup plus longtemps. Donc il y a à manger sur le cheptel domestique pendant bien plus longtemps qu'au nord, dans le nord. Voilà, l'explication, elle est tout simplement là. En tout cas, les troupeaux sont dehors, donc ça leur permet d'en prendre. S'ils étaient rentrés, c'est sûr que parce qu'il y aurait de la neige, ils ne pourraient pas. On voit d'ailleurs que plus l'aire de présence du loup est grande, plus il entre en contact avec des troupeaux ovins. C'est complètement logique. Hein. Voilà, le nombre d'attaques, on voit qu'il avoisine les 1000 attaques pour 350 communes avec de la présence du loup. On voit que ça monte hein, au fur et à mesure. Hein. Quand il y avait 50 communes, il y avait 200 attaques. Quand il y avait 100 communes, il y avait 400 attaques. Quand il y a eu 200 communes, il y avait 600 attaques. Voilà, quand il y a eu 250 communes, il y avait 800 attaques. 300 communes, eh bien, on arrive à 350 communes avec un peu plus d'un millier d'attaques avérées. Donc c'est avec constat, etc. Hein, c'est des attaques avérées loups. Et voilà, on voit que dès que les moutons sont en plus grand nombre, au moment de la transhumance, ben, on voit que ils sont consommés plus fréquemment. Et donc on arrive à 40% là, sur ce graphique-là, 40% de consommation de moutons, ce qui n'est pas sans poser problème. Hein. Donc voilà un graphique. Alors celui-là qui est intéressant, c'est quand je vous disais tout à l'heure que vous auriez toutes les informations pour vous donner, faire une idée, parce qu'on pourrait dire oh c'est quelques attaques finalement. Non, c'est pas quelques attaques. Regardez bien, en 2010, il y avait plus de 4000 attaques avérées. Hein, pardon, il y avait plus de 4000 animaux indemnisés, donc 4000 moutons tués ou blessés gravement, pour 1300 attaques à peu près. Pardon, 1100 attaques. Donc c'est pas un rêve non plus, hein, ça existe. Ça existe et les constats sont faits par des professionnels, donc c'est pas. Faut pas oublier qu'un loup, quand il attaque, il peut avoir du dérochement, une dizaine de brebis qui tombent et qui sont perdues. Donc voilà, c'est. Et donc on peut aussi comprendre que un berger, il élève pas des moutons pour les voir se faire dézinguer toutes les nuits, quoi. Hein. Donc faut aussi entendre ce discours-là. Donc pour faire baisser cette pression, parce qu'il y avait une forte, vous en avez tous entendu parler dans les journaux, il y avait quand même une. D'abord, il y avait un grand nombre d'attaques qui étaient avérées. Et puis il fallait réagir pour faire baisser un peu à la fois la pression sociale et puis peut-être à certains endroits faire cesser les attaques en montrant au loup que il fallait qu'il aille ailleurs ou qu'en tout cas qu'il tape dans autre chose. Hein. Donc en 2011, il y a eu un quota qui a été retenu par l'État. Donc c'était 6 loups à abattre. Alors on a entendu parler à la radio avec ce que je disais tout à l'heure. Vous entendez à la radio le journaliste, il vous donne une partie de la. Sur ces 6 loups en 2011, je reprends pas ceux d'avant. Hein, il y avait ce qu'on appelle les tirs de défense. Donc on autorise les bergers qui sont victimes d'attaques régulières, on les autorise à faire des tirs de défense. En général, ces tirs de défense sont faits, il faut qu'ils soient titulaires du permis de chasser, donc des fois ils l'ont pas, donc c'est un ami à eux qui vient, c'est un lieutenant de louveterie. Et les tirs de défense sont normalement faits avec un fusil de chasse à canon lisse. Donc c'est pas un tir où on peut tirer très loin. À tirer à, allez, on va dire 50 mètres au maximum et sans beaucoup de précision. Donc en général, on va plus faire peur au loup qu'autre chose. Hein. Mais c'était un des objectifs. Mais au moins, le berger, il a la sensation de pouvoir se défendre. Et pouvoir défendre son troupeau. Et puis il y a eu des tirs de prélèvement, il y avait 7 autorisations sur des zones où là vraiment, notamment une meute qui est installée au milieu de il n'y a que des troupeaux autour, donc celle-là, il fallait la faire baisser. Donc avec ces tirs de prélèvement, il y a eu 2 tués. Dans les tirs de défense, il y a eu 1 loup tué. Et en braconnage connu, 3 loups. Or, le ministère avait dit, le quota sera 6, mais ça comprendra les actes de braconnage. Ceci pour essayer de faire baisser le braconnage, puisqu'on vous autorise à les tirer sur les troupeaux, s'ils sont tués avant, ça sera fini. Alors, je ne sais pas si ça marche, mais enfin, c'était bien de le faire de cette manière-là. Que quelqu'un, qu'un éleveur se défende en tirant un loup qui vient lui manger ses moutons tous les soirs, après tout, c'est de la défense. Qu'un type au coin du bois qui est à l'affût au chevreuil ou tire un loup qui passe, c'est de la stupidité, c'est du braconnage. Il y en a un notamment qui s'est fait prendre en flagrant délit parce qu'il n'a pas eu de chance. Les gardes étaient là en train de suivre la meute et ils l'ont vu en train de tirer. Donc ça, c'est pas de chance. Vu le nombre de gardes et le nombre de chasseurs qu'il y a en France, il n'a vraiment pas eu de chance. Mais bon. Donc vous voyez, pour l'année 2011, c'était 6 loups. Donc on voit où ils ont été tirés. Hein. Les tirs de prélèvement, il y a eu 7 autorisations. Alors je ne les vois pas toutes. Hein. Les tirs de défense, pardon. Voilà, là, les 4 qui sont là. Et les actes de braconnage, ils sont relevés. Il y en a un ici... et un troisième ici. Voilà. Ce qu'on recherche, en fait, c'est un équilibre à la fois avec les éleveurs et puis aussi montrer à l'Europe, parce que aussi on a des engagements européens, hein, montrer à l'Europe qu'on fait ce qu'il faut pour protéger notre population de loups. Alors, vous avez peut-être entendu parler, il y a 2 ans, je crois, que l'arrêté est sorti, qui déclassait le loup des espèces gravement menacées. Alors, à l'époque, vous avez entendu des gens qui s'insurgeaient en disant le gouvernement fait un cadeau aux chasseurs, etc. C'était pas du tout le cas. Le loup n'est plus menacé. C'est la réalité. Le loup, aujourd'hui, n'est plus menacé. Il y a certainement un peu de braconnage. Il y a peut-être un peu d'empoisonnement, mais c'est moins sûr. Il y a des accidents sur la route. Il y a plus de loups tués sur la route et par les trains que... Et puis malgré ça, la population continue de progresser. Donc, il n'est plus menacé, il va continuer son expansion jusqu'à un niveau, on ne sait pas où. Et donc maintenant, l'objectif, c'est de trouver un équilibre avec les éleveurs de façon à ce que le loup soit accepté par les éleveurs. Et on s'aperçoit quand même que les contrats État-éleveurs, donc qui visent les mesures de protection, c'est les chiens patous, c'est les parcs, etc. Et puis les aides bergers, hein, puisque ça, c'est une part importante, vous allez voir du montant. Donc, on voit que ces contrats, ils continuent de monter. On est aujourd'hui à pratiquement 900. Donc, si les éleveurs signent ces contrats, ça veut dire que quelque part, ils ont compris que le loup, il était là maintenant. Et qu'ils ont tout intérêt, pour travailler correctement, peut-être à mettre en œuvre ces contrats avec l'État. Donc, c'est bon signe sur l'avenir. Alors maintenant, évidemment, il y aura toujours des manifestations, etc., parce que les gens n'en veulent plus. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que ces éleveurs s'aperçoivent que les mesures de protection, finalement, sont relativement efficaces. Il y avait un film, j'aurais pu vous le passer ce soir, mais ça aurait été trop long, un film pris en caméra thermique avec une attaque de loup sur un troupeau protégé par des patous, c'est ces gros chiens des Pyrénées, vous savez, de Belle et Sébastien, pour ceux qui se souviennent. Et on voit les deux loups qui arrivent pour attaquer le troupeau, les patous qui leur courent après, et à un moment, c'est assez spectaculaire parce que le patou est couché au milieu du troupeau, et donc il y a un loup qui s'approche, les moutons s'écartent tout doucement, ils s'approchent sans bruit, et le loup tombe à quelques mètres nez à nez avec le patou. Alors là, on voit la... Ça repart et finalement ils arrivent en ayant attaqué toute la nuit, ils arrivent de tête, il y a un mouton qui déroche et ils arrivent même pas à le consommer parce que quand ils veulent le reprendre, le patou les attaque et finalement ça doit être un renard qui en profite. Mais, et l'éleveur qui ne voyait pas ça puisque c'est la nuit a été hyper fier de ses chiens derrière parce qu'il pensait pas que ses chiens étaient aussi courageux, étaient aussi mordants avec le loup. Donc ça c'est des films qu'on passe parce que le réseau loup qui est passé pour montrer aux gens que ça marche les patous. Et qu'il y a finalement un loup qui va passer toute sa nuit à essayer de capturer un mouton dans un troupeau défendu, ben, il y a un moment, il passe plus d'énergie à essayer de prendre le mouton qu'à capturer, donc il va aller ailleurs. En tout cas, il va pas s'acharner sur ce troupeau tous les soirs parce qu'il est défendu. Et là, il va aller vers un troupeau pas défendu. Donc toutes les photos sur le côté, c'est des prélèvements de loups qu'il y a eu, vous voyez, 2004, 2005, 2006, pour calmer le jeu dans certains endroits où c'était vraiment chaud, où il y avait vraiment attaque tous les jours, et ça devenait invivable, quoi. Alors, ce que ça coûte, je vous avais dit qu'on vous dirait la vérité. Hein. Vous voyez, en millions d'euros, la progression, on est en 2010 à 6,3 millions d'euros. Donc, la plus grosse partie va pour les salaires de gardiennage. Alors, quelque part, ça donne du travail à des gens. Et après tout, je connais de l'argent public qui est moins bien utilisé que ça. Donc, voilà, il y a une partie qui va pour l'achat des patous et l'entretien. Et puis, les clôtures qui représentent une petite partie aussi. Donc, voilà, et ça avec de l'argent, bien sûr, de l'État, mais également de l'argent de l'Europe. Donc ça vous donne une idée, c'est pas négligeable, hein, 6 millions, plus de 6 millions d'euros, c'est pas négligeable. Certains pourraient dire, mais là je vous laisse, on en parlera après, hein, vous pouvez penser que c'est trop et qu'il faudrait faire moins et qu'après tout, le loup il a qu'à se débrouiller tout seul et qu'on a qu'à les... Mais chacun pense ce qu'il veut. Mais au moins, vous avez les chiffres. Voilà, je vais vous remettre... Alors voyez cette photo, vous voyez le loup qui est là, le chamois est là. Et le photographe est en dessous. Alors pour la petite histoire, ça s'est bien terminé parce que le chamois est parti, le photographe aussi, et le loup, enfin ça s'est moins bien terminé pour le loup parce qu'il n'a rien mangé. Mais c'est une photo assez spectaculaire quand même. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Vous écoutez l'émission L'eau à la bouche, c'était une conférence signée Louis Gérard Descrienne de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Une cinquantaine de personnes ont écouté cette conférence enregistrée à la Vacherie sur le plateau du Larzac, dont cet éleveur de brebis interviewé par Robert Martin de Radio Pays d'Hérault.
Ce soir, on nous a annoncé le retour inéluctable du loup dans notre région, à plus ou moins long terme. Alors, en tant qu'éleveur, quelle est votre réaction et vos angoisses ou les problèmes que ça va vous poser ?
Les problèmes, on les connaît à travers les problèmes qu'il y a dans les Alpes, avec les zones, le Mercantour, etc., où le loup est présent, sur les systèmes d'estive. Effectivement, ça semble difficile à gérer, la cohabitation loup-élevage tel qu'il est actuellement, quoi.
Ça vient un petit peu de la façon dont ici, sur le Larzac en particulier, on élève les brebis. Et que ça vient de la cohabitation impossible entre le loup et les éleveurs.
Non, je crois que l'histoire est encore plus vieille que ça. C'est le problème de cohabitation entre le loup et les ancêtres de la brebis. Le loup est un prédateur, on va dire, naturel des ongulés, particulièrement des ovins et des ovins domestiques. Donc, il y aura toujours. S'il y a du loup, il y aura de la prédation sur les troupeaux. Donc après, reste à savoir, ce retour du loup, c'est aussi un choix de société, quoi. Ça ne concerne pas que les éleveurs. Actuellement, dans l'exposé qu'on a eu ce soir, les chiffres sur le coût entre les indemnisations, les personnes embauchées pour la protection des troupeaux contre le loup, les patous, etc., c'est 6 millions et demi, je crois, d'euros pour une population estimée à un peu plus de 200 loups. Donc c'est aussi donc un choix de société de savoir jusqu'à quel coût on va pouvoir supporter le loup, sachant que historiquement le loup a été éradiqué par l'homme qui est lui aussi un super prédateur.
Enfin, au fond, l'équilibre naturel, c'est qu'il y a toujours dans toute la chaîne alimentaire un prédateur et qui est le prédateur de quelqu'un d'autre, etc. Et est-ce qu'au fond, ici dans nos régions, on n'a pas peut-être éliminé le loup trop rapidement et qu'on n'a plus l'habitude de cohabiter avec lui?
Bah effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, les systèmes d'élevage qu'on a développés, qui sont préconisés par les instances professionnelles, sont pas forcément compatibles avec la présence du loup. Hein. L'élevage en parc clôturé, on y est aussi quelque part, vu les contraintes économiques liées à ce métier. On ne peut pas passer 24 heures sur 24 avec notre troupeau. Déjà qu'on a des contraintes pour prendre éventuellement quelques jours de congé par an, on va pas, ça devient très vite invivable avec des attaques de loups, sachant que les dégâts, c'est aussi le stress des animaux. Nous, ici, on a des attaques de chiens, soit des chiens errants, ou des chiens de chasse, ou des chiens qui sont perdus, qui viennent attaquer le troupeau. Un troupeau qui se fait attaquer, c'est à peu près un mois et demi de stress. On le voit lorsqu'on va garder les brebis, il leur faut un bon mois pour ne plus être apeuré à moindre branche qui bouge suite à une attaque de chiens.
Bon, alors si la réapparition du loup est inéluctable, il va bien falloir faire avec les éleveurs, faire avec les randonneurs, faire avec les populations, faire avec le loup. Alors l'objectif, c'est quand même la bonne entente de tout cette biodiversité.
C'est aussi ce qui a été évoqué, on n'est pas dans le monde bisounours, la bonne entente, ça n'existe pas. Jusqu'à présent, on essaye d'avoir une approche plutôt positive avec le multi-usage de l'espace, que ce soit les randonneurs, les chasseurs et les éleveurs, on utilise le même espace. Bon, peut-être il va falloir le partager avec le loup, mais ça va vraiment nous fortement impacter nos systèmes d'élevage. La rentabilité, malgré les aides qu'il peut y avoir, on n'élève pas nos animaux pour qu'ils soient prédatés. C'est quand même un comportement naturel de l'éleveur de défendre son troupeau. Donc, il me paraît important. Nous, personnellement, on a mis un patou dans notre troupeau pour anticiper, habituer le cheptel, les brebis, et ça va pas sans poser aussi problème. Mettre ce genre de chien de défense de troupeau, crée d'autres problèmes avec les marcheurs, etc. Et c'est pas toujours, ou les autres troupeaux qui sont pas habitués à ce genre de chien, c'est pas évident à mettre en place.
En tout état de cause, il faudra s'adapter. Mourir ou s'adapter ?
Mourir sûrement pas, s'adapter oui. Moi j'ai quand même une petite anecdote que j'ai pas dite ce soir. Là, la soirée a un peu duré. Il y a quelques années, on organisait un concours de chiens au troupeau pendant plusieurs années avec nos brebis. Dans le concours, il y a trois niveaux. Niveau 1, c'est le débutant. Niveau 2, c'est, on va dire, déjà un niveau costaud. Et niveau 3, c'est le sélectif pour le championnat de France. Donc l'organisateur de ce concours de chiens est venu avec un loup tchèque à niveau 2, donc il présentait un niveau 2, un niveau déjà conséquent. Donc l'éleveur avec son chien prend un lot de 28 à 30 brebis et a un circuit, un parcours à faire. Donc les brebis, chaque lot de brebis avait un chien différent. Donc elles étaient plus ou moins un peu stressées parce qu'elles ne connaissaient pas les chiens. En plus c'était multirace, donc il y avait des bosserons, des labris des Pyrénées, des border collés. Ça se passait relativement bien. Lorsqu'il est arrivé avec son loup tchèque, à 25 mètres, les brebis étaient parquées. Il y a 5 brebis. Quand le loup a posé le regard sur les brebis, 5 brebis se sont échappées. Ce qu'elles n'avaient jamais fait avec aucun chien. Donc elles connaissent vraiment qui est le prédateur. C'est un atavisme. Je crois que ça fait partie de l'élevage. Malheureusement, j'espère qu'on ne sera pas confronté à cette cohabitation qui s'est mal finie pour le loup. En 96, il y a eu un loup présent sur le nord Larzac et qui, en 3 semaines, a tué 90 brebis au moins et puis a fini par être tué par les éleveurs qui campaient auprès de leur troupeau pour le défendre.
Merci, vous pouvez vous présenter ?
Oui, ben, je suis Daniel Laborde, je suis éleveur de brebis viande, donc on vend des agneaux élevés sous la mer à la barre sur la commune de Saint-Maurice. Hein, et donc j'en profite aussi pour faire un peu de publicité. Si vous voulez soutenir, si les auditeurs veulent soutenir les éleveurs de la région, mais qu'ils achètent des produits qui aujourd'hui sont bien tracés, issus des troupeaux qui sont présents dans l'Hérault et dans le reste du Larzac.
C'est la fin de l'émission L'eau à la bouche consacrée au loup, une émission proposée par Mathieu Tellen et Adrien Delgrange. Merci à Robert Martin pour le reportage et la prise de son de cette conférence. L'eau à la bouche, une émission proposée par Radio Pays d'Hérault et également diffusée sur Radio Larzac, Radio Clapas et Divergence FM. Rendez-vous le mois prochain.